Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine Art Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Publié initialement en 1976, Les lois fondamentales de la stupidité humaine est un bref essai satirique de l'historien économique italien Carlo M. Cipolla. Sous l'apparence volontairement solennelle d'un traité savant, l'auteur propose une grille de lecture des comportements individuels et de leurs effets collectifs. Son objet n'est pas de mesurer l'intelligence au sens psychologique ou scolaire, mais d'examiner les conséquences d'une action pour celui qui l'accomplit et pour les autres. Cipolla répartit ainsi les conduites humaines sur un schéma à deux axes, distinguant intelligent, bandit, crétin et stupide. Il en déduit cinq lois provocatrices sur la fréquence, l'imprévisibilité et la dangerosité de la stupidité. Le livre tient autant de la parodie académique que de l'observation sociale. Sa force réside dans la concision d'un modèle qui, malgré son caractère délibérément simplificateur, oblige à distinguer intérêts rationnels, coopération, nuisance et irrationalité dans les relations humaines et dans la vie publique. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, une définition comportementale plutôt qu'intellectuelle de la stupidité, le geste central de Cipolla consiste à déplacer la question de la stupidité. Il ne s'intéresse ni au niveau d'études, ni au quotient intellectuel, ni à la culture générale. Il définit plutôt les personnes à partir du bilan de leurs actes. Une action peut procurer un gain ou une perte à son auteur et simultanément un gain ou une perte à autrui. L'individu intelligent produit un bénéfice pour lui-même et pour les autres. Le bandit s'avantage en imposant une perte à autrui. Le crétin, catégorie parfois traduite par malchanceux ou naïf selon les éditions, aide les autres à son propre détriment. Enfin, l'individu stupide cause une perte aux autres sans en tirer de bénéfice et peut même se nuire à lui-même. Cette dernière définition donne aux propos son tranchant. Un comportement nuisible n'est pas nécessairement stupide s'il poursuit un intérêt identifiable comme celui du bandit. Il devient stupide lorsqu'il détruit sans logique de gain. Le modèle ne prétend donc pas classer définitivement les personnes selon leur essence. Il invite surtout à évaluer des conduites situées, leurs conséquences et leur cohérence économique ou sociale. Deuxièmement, le graphique des gains et des pertes comme outil de lecture sociale, le diagramme à deux axes est le dispositif le plus mémorable de l'essai. L'axe horizontal représente les effets d'une action sur son auteur, de la perte au gain. L'axe vertical indique ses effets sur les autres. Les quatre cadrans rendent visible une idée simple mais souvent négligée, les intérêts individuels et collectifs ne coïncidant pas automatiquement. La zone de l'intelligence correspond à la coopération productive, où chacun retire un avantage. Celle du bandit rappelle qu'un comportement égoïste peut être rationnel, donc relativement prévisible. La zone du crétin montre à l'inverse qu'une générosité ou une erreur peut profiter à autrui tout en pénalisant celui qui agit. La zone de la stupidité représente le cas le plus destructeur, parce que les pertes s'y cumulent. Cet outil emprunte son apparence au raisonnement économique, ce qui renforce le contraste entre le sérieux de la présentation et l'irrévérence du sujet. Sa valeur pratique vient moins d'une prétendue précision scientifique que de sa capacité à clarifier les effets concrets d'une décision. Il pousse le lecteur à regarder au-delà des intentions affichées et à demander qui gagne, qui perd et si le résultat était prévisible. Troisièmement, les cinq lois et le paradoxe d'une stupidité sous-estimée, Cipolla présente ses affirmations sous la forme de cinq lois fondamentales. Elles reposent sur une exagération méthodique, caractéristique de son humour pseudo-scientifique. La première soutient que chacun sous-estime toujours le nombre d'individus stupides autour de lui. Elle vise une erreur de jugement familière, supposée que les comportements absurdes sont rares parce qu'ils paraissent incompréhensibles. La deuxième affirme que la probabilité de rencontrer un individu stupide est indépendante d'autres caractéristiques telles que le statut social, l'instruction, le sexe ou l'origine. L'auteur attaque ainsi l'illusion selon laquelle les diplômes, les fonctions prestigieuses ou l'appartenance à une élite protégeraient mécaniquement contre le mauvais jugement. Sa troisième loi fournit la définition centrale de la stupidité comme production de pertes pour autrui sans gain propre. La quatrième insiste sur la sous-estimation régulière de la puissance de nuisance de tels comportements. La cinquième conclut que l'individu stupide est plus dangereux que le bandit, précisément parce que le bandit poursuit un intérêt que l'on peut comprendre et anticiper. Ces lois ne relèvent pas d'une démonstration empirique rigoureuse. Elle fonctionne comme une provocation intellectuelle destinée à révéler notre confiance excessive dans la rationalité d'autrui. Quatrièmement, pourquoi les irrationalités paraissent plus dangereuses que la malveillance intéressée? L'une des intuitions les plus fortes du livre est que la nuisance la plus difficile à contenir ne vient pas forcément de l'adversaire ouvertement égoïste. Un bandit cherche son profit aux dépens des autres. Son action est condamnable, mais elle possède une logique identifiable, on peut négocier, dissuader, surveiller ou prévoir une partie de ses choix. L'individu stupide, selon Cipolla, ne suit pas ce calcul. il peut déclencher des dégâts sans obtenir de contrepartie, ce qui rend son comportement déroutant pour les personnes rationnelles. Cette opposition explique la tonalité plus sombre qui traverse un texte pourtant drôle. Dans les organisations, les administrations ou les institutions politiques, une décision incohérente peut avoir un effet amplifié lorsque son auteur dispose d'une position de pouvoir. Le problème est donc pas seulement le nombre des comportements nuisibles, mais leur capacité à se diffuser et à affecter un grand nombre de personnes. Cipolla ne propose pas une méthode opérationnelle pour diagnostiquer les individus. Il invite néanmoins à reconnaître les limites d'une défense fondée exclusivement sur le calcul rationnel. Comprendre un intérêt adverse est souvent possible. Comprendre une conduite qui laisse tout le monde, y compris son initiateur, l'est beaucoup moins. Cette imprévisibilité est au cœur de sa théorie satirique de la dangerosité. En dernier lieu, de la conduite individuelle au déclin ou au progrès des sociétés, dans la dernière partie de son essai, Cipolla élargit son schéma à l'échelle collective. Une société ne progresse pas simplement parce qu'elle compterait peu de personnes stupides. L'auteur suppose au contraire qu'une proportion de comportements destructeurs demeure présente dans tous les groupes humains. La différence entre une société dynamique et une société en déclin tient alors à la capacité des autres catégories à produire assez de gains pour compenser les dommages. Les individus intelligents contribuent directement au bien commun en créant des bénéfices partagés. Les bandits et les crétins peuvent, dans certaines configurations, avoir des effets moins destructeurs que les comportements situés dans la zone de la stupidité. Le danger s'aggrave lorsque des personnes puissantes combinent recherche d'intérêt et effets nuisibles pour tous, ou lorsque les acteurs, capables de coopération, cessent de contenir les décisions dommageables. Cette extrapolation donne une portée politique à un texte qui pourrait n'être qu'une plaisanterie de salon. Elle doit toutefois être lue avec prudence. Cipolla ne fournit ni données comparatives, ni théorie institutionnelle complète. Son apport est plutôt une question persistante, une collectivité évalue-t-elle ses dirigeants et ses décisions selon les intentions proclamées, ou selon le bilan réel des gains et des pertes qu'ils produisent. En conclusion, les lois fondamentales de la stupidité humaine convient particulièrement aux lecteurs attirés par les essais brefs, l'humour intellectuel et les modèles provocateurs appliqués aux comportements sociaux. Il peut aussi intéresser les personnes qui travaillent dans des organisations, suivent la vie publique ou cherchent un vocabulaire plus précis pour distinguer conflits d'intérêts, coopération maladroite et nuisances incohérentes. Son bénéfice pratique n'est pas de fournir un test fiable permettant d'étiqueter les individus. Une telle lecture serait contraire à la prudence que réclame la simplicité même du modèle. Il aide plutôt à analyser les conséquences d'une décision. Crée-t-elle un gain partagé, transfère-t-elle un coût ou détruit-elle de la valeur sans raison intelligible ? Ce qui distingue Cipolla des ouvrages de psychologie populaire sur la bêtise ou l'irrationalité est son format volontairement minimal et sa mise en scène économique. Au lieu d'accumuler des expériences, des diagnostics ou des conseils, il construit une petite mécanique conceptuelle, un graphique et 5 lois énoncées avec un sérieux parodique. Cette économie de moyens explique à la fois son efficacité et sa limite. Le lecteur en quête d'une enquête scientifique approfondie, de preuves statistiques ou de solutions détaillées restera sur sa faim. Celui qui accepte un pamphlet ironique y trouvera une grille durablement mémorable. Le livre se démarque enfin par son double effet, il fait sourire devant la prétention à mettre la déraison en équation, tout en obligeant à considérer sérieusement les dégâts collectifs produits par des actes dépourvus de calculs cohérents. Si vous souhaitez soutenir Carlo M. Cipolla, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.